Bien, Philippe Roizès, qui fait partie de notre équipe, donc, et qui va nous présenter une communication à propos de RAS, hein, sur reformation, confirmation ou destruction d'une légende. Bah, écoute, on va avoir quelques éléments de réponse. À toi la parole, Philippe.
Quand je parlais dans le titre de légende, je ne parlais pas spécifiquement du groupe français RAS, mais plutôt sur le thème de la Réformation, en règle générale. RAS, qualifier le groupe de légende, ça serait vraiment démesuré. On peut parler, par contre, je pense raisonnablement, de groupe mythique, pas pour avoir laissé tant de traces dans leur existence courte, 1982-1984, mais pour ce que c'est devenu dans la scène. Finalement, une fois qu'ils étaient séparés, et particulièrement à partir des années 90. En introduction, ce que je dirais, c'est que ce qui est drôle avec les reformations, c'est que finalement, moi, je considère que le punk, ce qui est le plus important, c'est l'urgence comme étant le moteur, vivre l'instant, et que durer n'était pas forcément important. Et je pense qu'aucun groupe qui s'est formé en 76 ne pensait véritablement durer, et qu'il n'y avait pas vraiment de question de carrière. Et la Réformation, même à un petit niveau, il y a quand même une espèce de gestion de carrière, donc un truc un peu antinomique. Je vais dater le phénomène des Réformations, à mon avis, de manière massive, à 1996, parce que, y a un premier festival qui est organisé en Angleterre qui s'appelle Holidays in the Sun, avec, à ma connaissance, que des groupes qui se reforment pour l'occasion du festival. Et ça a tellement bien fonctionné qu'il y a eu depuis des éditions tous les ans, sauf que maintenant ça s'appelle depuis quelques années le festival Rebellion. Et c'est vraiment énorme. C'est vraiment, maintenant, il y a à la fois des groupes reformés et des groupes plus récents. Mais c'est vraiment devenu un phénomène énorme et qui n'a pas épargné la France. Je crois qu'il est important de dire d'où on parle. C'est-à-dire que je ne suis pas neutre dans cette histoire de RAS, pourquoi j'ai choisi ce cas. Je suis observateur, mais j'ai quand même une espèce de rôle. Donc, c'est un groupe que j'ai suivi parce qu'on était proches, on vient de banlieues très proches. C'est un groupe que j'ai suivi, que j'ai commencé à aller voir en concert, que j'ai rencontré pour les interviewer pour mon fanzine. Et du coup, donc, je suis devenu ami, plus particulièrement avec certains membres du groupe. En 2011, donc le groupe se sépare en 1984. En 2011, en fait, je supervise les rééditions de leur discographie qui sont sorties chez Euthanasia Records. En 2014, suite à une proposition qui est faite au groupe de se reformer pour un concert, et le concert se passe bien, donc ils décident de continuer. J'accepte de les aider dans la gestion de cette reformation. Et c'est assez amusant et j'assume mes propres contradictions, c'est-à-dire que moi, je suis contre les reformations. Parce que je trouve que c'est incompatible avec l'esprit punk, mais par histoire d'amitié, je m'implique dans leur reformation. J'ai pris leur cas parce qu'il peut poser plusieurs questions, des différences fortes entre les deux époques, et des questionnements à la fois personnels et collectifs. Donc du coup, je trouvais ça plutôt intéressant, et connaissant l'histoire de l'intérieur, je pense que je peux en parler de manière précise. Le groupe, c'est un groupe punk. Mais qui a la particularité, quand ils se forment fin 82, d'avoir en gros la moitié dans la composition de punk et de skin, à une époque, je le précise, où la question politique ne se pose pas encore. Également, à l'époque, ils prennent eux-mêmes la formulation de skunk, donc SK pour skinhead et unk pour punk. Et ils ne veulent pas s'attribuer l'étiquette communément posée depuis sur la scène plutôt mouvance, plutôt skinhead, l'étiquette britannique de Oi, parce qu'ils ne veulent pas justement qu'on les étiquette comme étant un groupe 100% skinhead. Voilà pour l'introduction. Donc, première partie, les grandes différences entre le groupe punk d'hier et la reformation d'aujourd'hui. Grand A, deux contextes très différents. Bah, déjà, dans la composition du public. Quand ils font des concerts en 83-84, c'est un public jeune qui a un peu leur âge, on va dire entre 15 et 22 ans, en gros, quoi, ou 15 et 25 ans, et les concerts réunissent entre 50 et maximum 100 personnes. La grande différence avec la reformation depuis 2014, c'est que c'est un mélange du public de l'époque qui les a suivis, donc des gens qui ont entre 45 et 60 ans, et des nouvelles générations et des générations donc qui ont l'âge de leur public de l'époque. Et aujourd'hui, le nombre de personnes qui assistent au concert, 100 va être un minimum pour arriver au concert à Paris à 400 personnes. Et je dirais aussi, c'est important de le dire, que le public d'aujourd'hui est beaucoup plus exigeant, c'est-à-dire il est habitué à une qualité sonore, à des prestances scéniques beaucoup plus professionnelles qu'à l'époque, et que du coup, une reformation sur scène, il ne faut pas se rater. Et j'ai mis deux photos, donc une photo d'un concert de 83 à Emerainville, où on voit que c'est un public plutôt clairsemé et 95% punk, et une photo récente d'un concert de reformation, où déjà il y a beaucoup plus de monde, et je ne sais pas si on le voit bien, mais en fait au premier rang, et dans les plus assidus, dans les qui connaissent tous les textes par cœur, ce ne sont que des skinheads. Voilà, ensuite, pour l'ambiance dans les concerts, où à l'époque, à l'époque il y a eu 11 concerts, majorité en banlieue parisienne, aucun à Paris intramuros, et un seul concert en région, près de Dunkerque. Ils ont joué dans des maisons de quartier, dans des gymnases, dans des tremplins qui réunissaient des groupes qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, et ils ont même failli faire un concert dans un restaurant de couscous, qui n'a pas eu lieu finalement, et à l'époque c'était un groupe parmi tant d'autres. Depuis la reformation de 2014, on va dire à 2019, parce que depuis le Covid il ne s'est rien passé, 26 concerts en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Italie et en Suède. Donc vraiment un boom, on va dire. Et là où on peut dire que c'est un statut de groupe mythique, c'est que le 45 tours original de 1982, aujourd'hui, il vaut 150 euros, et l'album qui est sorti en 1983 vaut à peu près entre 200 et 300 euros maintenant. Les originaux, évidemment. Voilà, j'ai mis concert dans un gymnase typique hein, en 83, avec un public clairsemé aussi, une mauvaise acoustique, hein, une salle trop grande. Et puis un concert là, dans la salle à Saint-Ouen à main d'œuvre, donc une salle professionnelle. On voit des lumières qui n'existaient pas du tout à l'époque, des retours qui fonctionnent. Enfin voilà, quelque chose de très différent. L'ambiance dans les concerts. À l'époque, il y a eu, à partir de la sortie de l'album, à partir de février 83, d'énormes oppositions et violences entre le groupe et les skinheads nationalistes, parce que la particularité des RAS, c'est d'avoir des skins au sein du groupe, mais des textes ultra antinationalistes. Et du coup, les skinheads nationalistes, qu'on peut qualifier même pour certains de néo-nazis, ne supportent pas ces prises de position et donc vont venir à trois concerts, les trois derniers, pour essayer d'empêcher le groupe de jouer. Voilà. Donc, j'ai mis une photo, et c'est la raison de la séparation du groupe d'ailleurs, c'est-à-dire que ça devenait un peu insupportable, donc ils ont décidé de s'arrêter, une des raisons majeures. Aujourd'hui, on est dans une relation pacifiée entre le groupe et l'ensemble de la scène, c'est-à-dire en 26 concerts ou 24, je ne sais plus. Il n'y a jamais eu 26 concerts, il n'y a jamais eu un seul problème aujourd'hui. Et j'ai donc mis une photo du concert d'Emerainville à l'époque, où on voit donc le groupe avec des micros en main pour empêcher des skinheads nationalistes de monter sur scène pour les empêcher de jouer. Et aujourd'hui, une partie du public sur scène en train de chanter avec eux, et un bassiste hilar et très heureux que tout se passe bien. Donc on peut dire en gros que le groupe a réussi son retour et que le côté « légende » entre guillemets, avec mille guillemets, s'est confirmé. L'évolution en grand B, l'évolution interne du groupe, alors l'image, à l'époque, c'est un groupe donc qui se définit comme skunk, comme je l'ai dit, et qui est perçu par les milieux politiques autonomes, squat et une frange des punks comme un groupe skinhead, alors que ça n'a jamais été leur intention d'avoir cette étiquette. Mais, comme on peut le voir sur la photo, ça c'est une photo plutôt vers la fin du groupe, la majorité du groupe a un look plutôt skin. Aujourd'hui, ils assument beaucoup mieux l'étiquette Oi, parce qu'on est dans une période beaucoup plus pacifiée où les skinheads nationalistes ont quasiment disparu de l'échiquier. Et le groupe, il est perçu maintenant, je dirais, plutôt comme punk par le public de l'époque plus âgé et plutôt comme Oi par un public plus jeune qui les suit aujourd'hui ou qui vient au concert aujourd'hui. Et le, dans, j'ai mis une autre photo du groupe aujourd'hui. Pour la majorité des membres, le groupe, le look skin a disparu. Et je dirais même en gros que le look punk a disparu aussi. Ils s'habillent comme ils ont envie, tout simplement. Après, pardon. Le moteur du groupe, à l'époque, c'est la passion adolescente. Hein, c'est la passion de faire un groupe, d'être sur scène, de partager quelque chose. Le message, parce que les textes ne sont pas anodins, l'urgence dans une première époque a été provoquée par ces dissensions avec le public nationaliste, qui fait que c'est un contexte spécial et qu'ils défendent avec encore plus d'ardeur leur titre antinationaliste. Aujourd'hui, je dirais que c'est surtout un désir de renouer avec leur jeunesse et une recherche du plaisir avant tout, et forcément un peu une forme de nostalgie. Je pense que c'est le moteur le plus fort. Et j'ai mis donc deux photos. Là, on voit le deuxième chanteur du groupe, en train de faire un fuck à l'anglaise, donc un skinhead nazi en train de faire un salut nazi au premier rang. Et une photo d'un concert d'aujourd'hui où on voit le même chanteur avec le nouveau bassiste, et on voit que, évidemment, l'ambiance est nettement plus détendue. Les textes et l'image du groupe... à l'époque, j'ai rappelé le contexte où il y avait des attaques aux trois derniers concerts, donc le groupe, on l'a vu sur les photos, était prêt à se battre physiquement pour défendre leur point de vue. Aujourd'hui, sans rien renier de leur position, il y a une sorte de relâchement qui est sans doute dû à l'âge, où on n'a pas envie de battre après 50 ans, et un contexte moins dur que j'ai évoqué, c'est-à-dire que personne ne vient faire chier le groupe sur scène aujourd'hui, et une envie de passer des bons moments avant tout. Et je dirais même que s'il y a des gens réac ou nationalistes dans la salle, du moment qu'ils ne font pas chier, ils sont là et puis un point, c'est tout. J'ai mis en photo, pour rappeler le contexte de l'époque où l'Union soviétique existait encore, et donc un rejet de deux formes de dictature, dictature communiste et dictature nazie, une photo qu'ils ont fait à l'époque pour la sortie de leur album. Et encore une photo de liesse générale avec du public sur scène à tel point qu'on ne voit même plus les membres du groupe. Et je dirais que le groupe n'a pas perdu son âme, mais qu'il est moins combatif. Seconde partie, le fonctionnement interne du groupe, avec donc l'état d'esprit. Spontanéité à l'époque et plus de calcul aujourd'hui. Large spontanéité due à l'âge, à l'époque où on fait les choses comme on les sent. Et c'est sûr que depuis la reformation, il y a davantage de calculs et même de stratégies. Il y a des réunions où on discute de qu'est-ce qui. Parfois, c'est dans les éventuellement de nouveaux textes à écrire. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas, comment le public va le recevoir, le percevoir. Des questions qui se posaient pas du tout à l'époque. Quand il y a une communication sur la page Facebook, par exemple, c'est qu'est-ce qu'on dit, à quelle fréquence on communique, qu'est-ce qu'on garde pour nous. Et puis, ils ont enregistré un maxi, qui sont en fait des titres de l'époque, mais qui n'avaient jamais été enregistrés, et qui est sorti en 2017. Et là, il y a eu plein de discussions sur la pochette, sur cette photo, elle est bien, mais ça, c'est pas l'image du groupe. Enfin, vraiment, je pense, des questions qui ne se posaient pas à l'époque. Et j'ai mis donc, pour illustrer, une photo de rigolade de l'époque, et le site internet du groupe, qui d'ailleurs ne fonctionne plus vraiment, là, qui a été supplanté par la page Facebook. La recherche d'un certain confort, aujourd'hui, à l'époque, tous les concerts étaient acceptés, quelles que soient les conditions, le groupe n'a jamais été payé. Et quand ils ont joué à Coudekerque, près de Dunkerque, ils n'ont même pas été hébergés, puisqu'il y a une partie du groupe qui a dormi dans un hall d'immeuble et l'autre partie sur la plage. Depuis la reformation de 2014, il y a des discussions sur les concerts à faire ou ne pas faire, est-ce qu'on accepte, est-ce qu'on refuse, pour différentes raisons. Le cachet a demandé, le groupe est toujours payé. Alors, une partie de défraiement, mais même une partie d'argent en plus, tout simplement parce qu'il y a du monde et qui est réinvesti en général pour payer les répètes, pour payer un enregistrement, pour faire des t-shirts ou des choses comme ça. Personne ne garde de l'argent dans sa poche, ce n'est pas le but. Il y a des discussions sur les conditions du groupe, l'heure de passage, pas trop tôt, pas trop tard. Les autres groupes qui sont programmés, il peut y avoir un refus parce que tel autre groupe fasse sur des questions politiques, hein, pas sur des questions de jalousie ou des choses comme ça. L'affiche même parfois, regarder à quoi va ressembler l'affiche, et beaucoup plus de confort, c'est évident. À l'époque, ils étaient allés à Coudekerque dans une voiture louée. Aujourd'hui, à part si la distance est très courte, c'est train, et pour l'étranger, avion. Et il y a un minimum le repas chaud, l'hôtel, parce qu'il y a des membres du groupe qui, de la formation initiale qui sont plutôt âgés, on va dire, entre guillemets, pour des punks en tout cas, et qui, du coup, ont besoin d'une bonne nuit de sommeil dans un vrai lit. Et j'ai mis donc deux photos. C'est drôle d'ailleurs de voir qu'à l'époque, ils s'en foutaient de tout, mais ils faisaient des photos où ils faisaient un peu les durs. Et puis aujourd'hui, où ils sont plus regardants sur la chose, ils font une photo où tout le monde est hilar et le batteur n'a même pas de pantalon. Ensuite, il y a la question très forte, faire de nouvelles compositions ou pas. Il y a toujours une appréhension sur la question de sortir des nouveaux morceaux parce qu'en général, le public s'en fout. C'est-à-dire qu'il veut les morceaux de l'époque. Il y a eu dans le groupe une tentation d'avoir des nouveaux morceaux. Il y a eu des difficultés à composer, ça ne venait pas. Il y avait des temps de latence, des répètes de nouveaux morceaux, et puis finalement, après, ça se délitait, il ne se passait rien. L'écriture, c'était un peu pareil. Et ça questionne la motivation et l'avenir, et la longévité aussi d'un groupe. Est-ce qu'on multiplie à l'infini les concerts avec le vieux répertoire, ou est-ce qu'on fait quelque chose de différent ? Donc, moi, je trouve que ça confirme surtout que le punk est un phénomène surtout de jeunesse. Dès qu'on est un peu plus âgé, ça complique les choses. Et là, il est question éventuellement de faire un nouveau maxi qui sera un baptême du feu. Et ça complexifie le statut de légende, c'est-à-dire qu'il y a un risque de se planter. Les grands B, les membres du groupe, les anciens et les nouveaux, parce que en fait, il y a des gens de la première formation qui ne sont pas dans la reformation. Donc, c'est un mélange des anciens de la première période et de nouveaux arrivants. Ça s'est fait par lien affinitaire, c'est-à-dire que le chanteur qui n'avait jamais décroché avait fait d'autres groupes et donc a ramené des gens des deux groupes qu'il avait fait par la suite. Il y avait une question pour les nouveaux de trouver leur place et leur légitimité en tant que nouveaux. L'accueil et le liant, amical, s'est bien passé. Eux étaient plutôt les nouveaux à dire bah, « Dans vos réunions, nous, on ne prendra pas position parce qu'on est les pièces rapportées. » Puis très vite, c'est mis en place. Non, égalité des avis, votre voix compte. Et donc, les décisions étaient prises collectivement ou à la majorité. Il y a l'écart géographique. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est des gens qui se voient tout le temps, hein, qui habitent les uns près des autres, qui se connaissent en général depuis l'école, au moins le lycée. Aujourd'hui, y a trois membres du groupe qui habitent en région et pas en région parisienne. Et donc, par force des choses, ils se voient moins. Et puis l'âge fait que chacun a sa vie et les membres du groupe se voient moins. La différence de niveau technique qui se sent, c'est-à-dire que clairement, les nouveaux arrivants sont meilleurs techniquement que les anciens. C'est dû... un accès à un meilleur matériel, au fait que beaucoup de morceaux sont mis en ligne sur YouTube tout le temps. Donc, plus jeunes, les gens répètent et progressent plus vite. Il y a aussi ceux qui ont suivi l'évolution de la scène depuis 84. Il y a ceux qui n'ont rien suivi du tout, reformation, mais entre 84 et 2014, ils ne savent même pas ce qui s'est passé au niveau de la scène punk. Et il y a ceux qui n'ont jamais connu les années 80, donc les nouveaux arrivants. Donc, des fois, ça peut provoquer des incompréhensions entre chacun sur certaines discussions. Clairement, j'ai mis une photo où on voit deux anciens d'un côté et deux nouveaux arrivants de l'autre. Et pour finir, la question de la légitimité. Il y a un membre fondateur et moteur dans le groupe de la formation d'origine. Il a formé le groupe, c'est lui qui a apporté le maximum d'idées, qui a composé 80% des musiques, qui a dû écrire 50% des textes. À l'époque, comme il était moteur, c'est lui qui proposait beaucoup d'idées, dans la reformation, c'était décision prise démocratiquement. Et à un moment, il a ressenti une perte de légitimité, voire d'autorité, et il a cherché à réaffirmer tout ça, ce qui a créé des dissensions et carrément son départ. La question de la légitimité à continuer, elle se pose quand il y a un membre fondateur qui s'en va, qui a été moteur. Et il a été décidé que le groupe continuait sur la base de « on a envie encore de prendre du plaisir », mais d'avoir un petit changement, d'abord pour marquer une page qui se tourne, c'est-à-dire que le groupe s'appelait RAS à l'époque et maintenant il s'appelle RAS84, tout simplement parce que l'album s'appelait 84 à l'époque. Et un changement symbolique de nom et de logo. Donc, en conclusion, je dirais que c'est un groupe qui a plutôt réussi sa reformation, mais le départ du membre fondateur a été vécu quand même, comme il y a eu des dissensions assez fortes, comme une espèce de drame interne. Et du coup, je parlerai peut-être pas de légende, mais de mythe secoué. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de prendre l'exemple de ce groupe pour un peu poser tous les problèmes qui peuvent, tous les problèmes, les différences déjà entre deux époques et deux manières de fonctionner, et tous les problèmes et les questionnements internes que ça peut provoquer. Voilà.
Rester là pour les questions.
Merci Philippe pour cette communication autour du groupe RAS. Alors, c'est toujours pareil, hein, comme on n'a pas de micro circulant, il y a possibilité de poser des questions, mais il va falloir parler fort. Moi, j'en ai une toute simple et basique. Comment est-ce que tu expliques l'augmentation du volume du public? On t'a donné les fourchettes, 50-100 personnes pour le premier âge, on va dire, de RAS. Et là, au bout, 100 à 400, ça n'est pas rien quand même. Voilà. Comment se crée l'effet de masse? Est-ce que c'est la mémoire? Est-ce que c'est transgénérationnel? Qu'est-ce que c'est qui fonctionne dans cette reformation?
Alors, c'est transgénérationnel, comme je l'ai dit. C'est-à-dire que dans le public, on voit clairement des gens qui suivaient le groupe à l'époque et des gens très, très jeunes aujourd'hui, qui peuvent avoir 16 ans. Donc, ça, vraiment, il y a toutes les époques. Je crois, comme je le disais au tout début, que il y a eu ces trois derniers concerts qui sont très mal passés avec ces skinheads nationalistes qui essayaient physiquement de les empêcher de jouer. Il y a même eu un concert où il y a un type qui a été trouvé à l'entrée avec une arme qui était une arme d'alarme, mais bon, ça secoue un peu quand même. Un pistolet d'alarme, quoi, mais bon, visuellement, ça fait son effet. Et dès qu'il y a un groupe où son histoire ne se passe pas sans histoire, justement, ça crée du mythe. C'est-à-dire, une fois que le groupe est séparé, ça papote, ça raconte. À l'époque, il n'y a pas les réseaux sociaux, il y a très peu de vidéos, il n'y a rien qui est filmé. Et du coup, à partir du moment où ils se sont séparés, moi, j'ai vu des discussions sur des forums dans les années 90, incroyables, style le concert d'Emerainville. Il y avait, je pense, 100 personnes. Les gens disaient, oui, il y avait 300. Il y avait 100 skins nationalistes qui sont venus. Non, il devait être 10, 12 maximum. Le côté très dur entre les deux côtés, ça a dû durer 20 minutes, grand maximum. Là, c'est bataille rangée. La police a chargé. Non, la police, elle est venue une fois que le public était parti. Et je pense que ça, toutes ces histoires créent du mythe et que les gens sont intéressés par les mythes, en fait. Et du coup, je pense que ça participe aussi à faire ramener du monde, genre on va voir la bête de près, en gros. Et après, je pense qu'il y a un truc particulier avec la scène Oi, c'est qu'elle a pris un essor gigantesque, alors que c'était un épiphénomène dans les années 80, parce que même si beaucoup de gens en écoutaient, des groupes qui se revendiquaient Oi et RAS, c'était même pas leur cas, il n'y en avait pas beaucoup, en fait. Alors qu'aujourd'hui, il y a une scène énorme, aujourd'hui, et très, très vive, très, très, très vivante, et qui fonctionne bien, donc, du vieux public, du public ancien sur la nostalgie et du nouveau public sur une espèce de genre, ah ben, il faut aller voir les légendes des années 80 parce que c'est ce qui a forgé la scène d'aujourd'hui, en gros. Je dirais, voilà, c'est les différents éléments d'une réussite. Dans les années 90, des groupes comme RAS séparés, ce qui les a fait survivre, même s'ils étaient séparés, c'est la cassette. C'est-à-dire, plein de gens sortaient des cassettes d'albums qu'on ne trouvait plus, hein, clairement, qui ne circulaient plus ou à des prix prohibitifs. Et alors, c'était des cassettes finalement pirates, puisqu'ils demandaient l'autorisation à personne. Et ces cassettes circulaient, elles se vendaient à des prix modiques. Et du coup, la mémoire était entretenue.
François ? Allô ?
Oui ?
Oui, pardon. Non, j'entendais plus rien, j'avais plus de son. Donc, je t'ai vu gesticuler, mais je ne sais pas ce que tu as raconté. Donc...
des conneries.
Mais non, c'était très intéressant parce que ça pose toutes les questions qui vont se poser après dans la table ronde sur. Les justifications ou les circonvolutions entre les déformations, les reformations, donc c'est vraiment intéressant. Je me demandais pour le aussi sur l'évolution du public, qui alors je vais dans le sens de je crois que c'est lui qui a dit ça aussi. Aujourd'hui il y a beaucoup de festivals, il y a des festivals allemands qui rassemblent, hein, où le Oi est inscrit dans musicalement, dans plein de festivals qui rassemblent énormément de monde. Donc, j'imagine que la scène s'est démultipliée. On voit les concerts de Coxparer aussi, c'est pareil, toute cette scène anglaise qui continue. Et je voulais savoir un peu si RAS, ils se considéraient un peu comme ça, c'est-à-dire une sorte de Fox Farrar français qui avait une sorte d'aura auprès d'un jeune public. Et qui est ce jeune public? C'est plutôt de la scène Oi, Lions Law, ou de la scène autour de Lions Law qui vient, ou c'est plus large encore?
Alors, eux, à titre personnel, les anciens, hein, je dirais, ils en reviennent toujours pas. C'est-à-dire, pour eux, c'est toujours un questionnement, mais comment ça se fait qu'il y a tant de monde qui veut venir voir le groupe? Comment ça se fait qu'on sort un nouveau maxi, on le represse trois fois, enfin, un nouveau maxi avec des anciens morceaux pas enregistrés à l'époque? Eux, ils se prennent absolument pas pour une légende ou un mythe. Eux, ils sont toujours sur le cul que ça fonctionne comme ça. Pour eux, ils allaient être oubliés, quoi. Hein. Bon, en tout cas, pour le chanteur qui a jamais décroché, qui a toujours fait des groupes, lui, il pensait que ça ramènerait 100 personnes maximum et qu'au bout de trois concerts, ça s'épuiserait. Donc, ils sont toujours dans l'étonnement. Pour le jeune public, je crois que je l'ai dit à un moment, les gens les plus jeunes qui viennent voir le groupe aujourd'hui sont vraiment liés surtout à la scène Oi, et en particulier effectivement des gens autour de Lions Law, mais bon, pas forcément dans leur cercle premier, mais en tout cas des gens qui écoutent ce genre de groupe. Moi, j'ai remarqué que les gens les plus âgés du public aujourd'hui étaient plutôt punk, et que les gens les plus jeunes du public aujourd'hui étaient plutôt skinhead. Alors, je n'ai pas d'explication, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai observé, quoi. Et du coup, oui, une jeune scène Oi skinhead très, très vivace et énorme aujourd'hui. Et je pense aussi, il y a un truc peut-être sans doute important, c'est que comme, je dirais à 80%, les problèmes de nationalisme, nazisme, fascisme, ont été, entre guillemets, épurés aujourd'hui, il y a aussi moins de... je veux dire, être skin en 1985 en disant « je suis pas nazi », ou c'est quand même se mettre un peu contre l'avis général de tout le monde. Aujourd'hui, arborer le look skin, aller au concert, avoir une vie normale de fan, entre guillemets, ou même d'acteur de la scène en ayant ce look, c'est vraiment moins problématique, hein, aujourd'hui. Hein. On n'est pas vu forcément tout le temps. Quand le type arrive au concert, t'as pas trois quarts de la salle de punk qui se retourne en disant « des nazis arrivent, c'est fini ça », parce que c'est une autre réalité aujourd'hui, justement. Donc je pense que ça explique aussi pourquoi il peut y avoir une scène plus large, plus vivace, parce que c'est pas le même engagement. C'est-à-dire qu'à l'époque, persévérer à être skinhead en n'étant pas nazi à l'époque, c'est dangereux, c'est concrètement très dangereux.
Bon, merci les gars, on va être obligé de couper là, de faire un break pour aller manger.
Alors, donc vous connaissez la tradition de peindre, vous êtes tous invités à déjeuner. On va vous montrer où on est. Il y a deux salles, on n'a pas le droit d'être plus nombreux que 10 par salle, mais ça va le faire. Donc, on a installé une salle où vous allez chercher votre repas et 10 personnes vont dans la salle d'à côté et 10 personnes restent dans la salle.
Il y a de la bière aussi.
Oui, il y a de la bière aussi.